Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Et nous sommes au rendez-vous et ravis de vous retrouver sur BBC Afrique et Africa Radio. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Bonjour Liliane.
Bonjour Saint-Ish, heureuse de vous retrouver pour cette autre édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. On commence par le Burkina Faso. Le gouvernement est engagé sur plusieurs fronts, dont la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme. Une opération lancée en début de mois contre des groupes djihadistes se poursuit. Mais quelles sont les chances pour le pouvoir de mettre fin à l'insécurité entretenue par ces milices armées?
L'armée burkinabé affirme avoir infligé des pertes aux groupes armés avec cette opération dénommée Houné, mais ce n'est pas la première fois que les forces de défense burkinabé entreprennent de déloger les groupes armés et beaucoup s'interrogent sur la pérennité et les résultats à attendre de cette nouvelle offensive de l'armée. Liliane.
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est-il victime d'un acharnement politique comme il l'affirme? Une de ses résidences dans la capitale Nouakchott a été perquisitionnée dans le cadre d'une enquête judiciaire.
La police cherchait des lingots d'or que l'ancien président détiendrait. Mohamed Ould Abdelaziz, sous le coup d'une accusation pour corruption et blanchiment d'argent, a également été assigné à résidence pour 2 mois renouvelables. Liliane.
Dernier sujet, Saint-Ish, c'est le Mali. Démission du gouvernement et reconduction du Premier ministre Mokhtar Ouane. Il a été aussitôt chargé de former un nouveau cabinet. Le limogeage du gouvernement va-t-il contribuer à apaiser le climat social tendu, mais aussi à décrisper les relations jusque-là difficiles entre le M5-RFP et le gouvernement de transition, justement à 8 mois de la fin de cette transition?
Alors qu'une mission de suivi de la CDAO justement dans le pays a exhorté les autorités à définir des priorités pour tenir dans le délai, le M5, ce mouvement qui a conduit la contestation contre l'ex-président malien, lui demandait simplement et purement la dissolution du gouvernement et du Conseil national de transition, ce qu'il a obtenu, mais est-ce à l'avantage de la suite de la transition, Liliane?
Merci Saint-Ish et on va tout de suite vous présenter notre plateau de cette semaine. Notre invité est le docteur Ousseni Tamboura, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes en ligne de Ouagadougou et petite fiche de présentation de notre invité, docteur Ousseni Tamboura. Vous êtes titulaire notamment d'un doctorat en droit privé sur le développement financier des pays de l'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous êtes cadre de l'administration publique du Burkina depuis plus de 20 ans. Vous avez été ministre délégué chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, membre du parti au pouvoir, le MPP, Mouvement du peuple pour le progrès. Vous avez été aussi élu député en 2015 et occupé ensuite le poste de 4e vice-président de l'Assemblée nationale entre 2015 et 2017. Vous êtes docteur Tamboura, ministre donc de la Communication et des Relations et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso depuis le 10 janvier dernier. Merci d'avoir accepté notre invitation et de débattre avec nous cette semaine de l'actualité africaine. Nous avons également avec nous 2 confrères. Il s'agit de Mokhtar Gawad, journaliste mauritanien, analyste politique et promoteur du site d'information Vue sur l'Amérique.com, un site spécialisé dans l'histoire et l'actualité des États-Unis pour le public francophone. Vous êtes basé à Washington, Monsieur Mokhtar Gawad. Bonjour.
Bonjour Liliane, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à tous les auditeurs.
Merci à vous et merci également à notre confrère Salif Diarra. Salif, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur et directeur de publication du site d'information maliactu.net à Bamako, au Mali. Voilà pour notre plateau, Saint-Ish. On commence avec vous, le Burkina.
Et avec le Burkina, 4 bases détruites, du matériel récupéré et au moins 20aine de djihadistes tués. C'est le bilan de l'opération militaire dénommée Houné en full day, comprenez dignité. Une opération lancée au début du mois avec un double objectif, déloger les groupes armés qui attaquent les villages et rassurer les populations dans les régions du Sahel et celles du Nord. Le Burkina Faso est confronté depuis plus de 5 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes tels que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et aussi l'État islamique au Grand Sahara. Leurs assauts ont fait quelques 1300 morts et forcé plus d'un million de personnes à fuir de chez eux. L'opération Ounet est prévue pour durer 1 mois. Seulement, ce n'est pas la première opération du genre. Et avant d'entrer dans le débat, Liliane, messieurs, je vous propose d'écouter ce que le maire de Dori, c'est la principale ville de la région du Sahel, pense de cette opération. On écoute le maire Aziz Diallo.
Nous avons reçu les informations sur les opérations qui ont été menées avec des bilans aussi. On s'en réjouit. Nous avons souhaité depuis longtemps que l'armée prenne un peu l'ascendant sur ces forces du mal. Et on était tous convaincus que la meilleure manière, c'était vraiment d'aller les engager plutôt que d'attendre de subir les attaques. Donc à partir du moment où ces personnes-là sont là, ils sont dans les contrées, sont dans les villages et dans des endroits bien identifiés, et il était de bon temps que l'armée aille les engager pour vraiment rétablir un peu la force dans cette zone. Et cela va servir beaucoup à réconforter les populations. Le défi maintenant, c'est de maintenir ces positions-là. Que vous allez vous mener des actions spontanées, mais si par la suite vous libérez le champ, et ces mêmes individus vont revenir encore et puis s'en prendre encore aux populations. Parce qu'on a vu dans certains endroits, après les opérations, ils sont revenus et ils s'en sont pris aux populations parce qu'ils les accusaient d'avoir collaboré avec les forces de défense.
C'était le maire de Gori, Monsieur Aziz Diallo. Alors, Monsieur le ministre Tamboura, le maire l'a fait remarquer, il y a eu des opérations avant celle-ci, notamment en 2019, et c'était dans les mêmes régions. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci et qui peut faire espérer de meilleurs résultats?
Oui, merci madame de me donner donc cette opportunité pour échanger et certainement apporter quelques éléments d'information à la suite des propos de l'honorable député maire Aziz Diallo de Dori. D'abord, ce n'est pas la première opération, vous l'avez dit dans votre introduction, ça fait 5 ans que nous sommes confrontés à cette situation d'attaque terroriste. Donc ça fait 5 ans que les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire nos forces armées, sont sur le terrain du combat. Alors, il faut comprendre donc la stratégie qui est en place. Il s'agit d'une part de régulièrement faire en sorte que ces groupes terroristes soient neutralisés, mais il s'agit aussi de faire en sorte que la population puisse être informée et mise à contribution pour une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Vous comprendrez que les effectifs des forces armées ne pourront pas être à tous les mètres carrés du territoire. Il s'agit donc ici, avec une situation ou une vision stratégique, de traiter donc les groupes terroristes qui ont pris le temps donc de s'implanter dans quelques localités de notre pays. Ce qui a changé dans cette opération, c'est aussi peut-être l'envergure, mais c'est aussi la communication autour. Vous savez que en général, les forces armées, et ça depuis 2016, on le fait, hein, des opérations se font. Et maintenant, je pense qu'il s'agit aussi de faire en sorte que les actions des forces armées soient mises.
Justement, oui, monsieur le ministre, il y a beaucoup de communication justement autour de cette opération. Pourtant, quand on regarde le bilan, une 20aine de terroristes neutralisés, 4 bases démantelées, du matériel récupéré, ça semble un bilan plutôt modeste et aussi l'opération n'est prévue que pour 1 mois.
Monsieur, oui, ben, écoutez, ça fait, les forces armées ont déjà fait beaucoup d'opérations à l'Est, puis au Sahel, au Nord, il y a quelques années. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Hein. Ça fait 5 ans qu'on est,
l'actualité,
est sur ce
oui.
terrain. Depuis le 15 janvier, depuis les attentats de Cappuccino, depuis un certain nombre de choses, on peut énumérer le nombre de victimes, le nombre de neutralisations faites par nos forces armées. Malheureusement, nous avons l'impression aussi que les terroristes, certainement donc de plus en plus confrontés à des forces armées plus aguerries, ne s'en prennent qu'aux populations civiles. Donc je pense que ces actes de lâcheté semblent retentir beaucoup plus dans les médias et dans la communication que les actions militaires.
Monsieur le ministre, vous-même, vous l'avez dit, depuis 2016, vous multipliez les opérations pour tenter de combattre ces djihadistes. Les résultats sont plutôt maigres. Les plus sévères disent nuls. La preuve, cette vidéo qui a circulé où on voit les djihadistes parader, qui a d'ailleurs choqué les populations du Burkina. Comment comptez-vous installer durablement la paix dans ces localités? Même si les djihadistes y sont chassés au bout d'un mois d'opération.
Mais je suis étonné d'avoir que vous dites que les résultats sont maigres ou nuls. Est-ce que vous avez fait
certains Burkinabés disent que rien n'a changé. J'ai bien dit certains qui sont plus sévères estiment que les résultats de ces opérations sont carrément nuls.
Madame, il faut distinguer deux choses. La réalité est qu'il y a des attaques terroristes, c'est une réalité. Mais dire qu'il n'y a pas de résultat, c'est autre chose. Est-ce que le résultat, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de terrorisme? De toutes les façons, nous connaissons le phénomène, et tel qu'il s'est engagé dans beaucoup de pays avant le Burkina Faso, et nous savons très bien que c'est une lutte de longue haleine, et vous le savez. Et à partir de ce moment, quand nous faisons le bilan de groupes terroristes neutralisés ou de bases terroristes neutralisées, on est en droit de dire que les forces de défense aussi viennent de très loin. Parce qu'il ne faut pas aussi ignorer dans quel état
étaient nos armées. Donc vous êtes satisfait des résultats obtenus depuis 2016?
Oui, mais on est obligé de se satisfaire de ces résultats. Elles sont beaucoup plus résilientes, nos forces armées. Regardez l'historique là. Et en 2018-2019, nous avions des attaques contre nos forces de défense par les terroristes. Mais depuis 2019-2020, il y a eu très peu d'attaques contre les forces de défense. C'est au contraire les groupes terroristes qui subissent des pertes. Et leur fait de guerre, c'est quoi? C'est de tuer des civils, des armées, des enfants, des femmes. Et je pense qu'il y a lieu de féliciter les forces de défense et de sécurité et de les engager à continuer pour vaincre ce mal partagé dans la sous-région. Parce qu'il s'agit aussi de faire un effort collectif avec
tout
le
à fait,
Mali,
tout le Sahel est concerné.
Et pourquoi pas avec le Nigeria aussi.
Mais monsieur le ministre, ma question était de savoir, après cette opération, quelle est la prochaine phase et comment faire en sorte que cette paix soit durable dans les zones que vous allez peut-être remettre sous sécurité?
Les opérations vont continuer puisqu'il s'agit de défendre le territoire, de s'attaquer à ce groupe. Ensuite, nous avons fait un diagnostic en 2019 pour nous rendre compte que c'est une guerre asymétrique qui n'utilise pas donc des forces, j'allais dire conventionnelles. Nous avons au Burkina Faso fait en sorte que les populations soient associées à la lutte contre le terrorisme. Et le Parlement a voté un texte de loi qui institue ce qu'on appelle les volontaires pour la défense de la patrie. Parce qu'en fait, il faut mettre les populations dans les villages à contribution avec un encadrement, j'allais dire, adéquat, afin que ça soit aussi donc des auxiliaires des forces de défense pour faire face donc à ces menaces souvent portées par, j'allais dire, des combattants inconnus, non identifiés.
Mais monsieur le ministre, faisons un peu, on va dire, une évaluation de cette collaboration de ces auxiliaires dont vous parlez, de ces volontaires qui combattent, qui aident d'une certaine façon dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont en train de payer un lourd tribut. On a enregistré beaucoup de pertes dans leur rang dernièrement.
Madame, c'est tout le peuple qui paye un lourd tribut, que ce soit les auxiliaires, les populations.
Nous en convenons, monsieur le ministre, nous en convenons, les pertes sont... Mais spécifiquement, parlons de ces personnes justement que vous utilisez entre griffes, et en tout cas qui sont vos alliés dans cette lutte. Justement, et qui sont vos alliés, mais qui ne sont pas aussi équipés que les forces de défense.
Mais madame, c'est d'abord pas les forces de défense. Hein. On les distingue des forces de défense. Elles ne peuvent pas avoir le même équipement.
Mais on leur demande également d'aller de collaborer dans cette lutte.
Non, écoutez madame, quelles sont les localités qui sont attaquées? C'est les villages. Ceux qui attaquent ont des armes. Et ceux qui doivent les défendre sont équipés de façon, j'allais dire, adéquate, mais pas au même niveau d'équipement que les forces de défense et de sécurité. Sinon, on parlerait simplement de forces de défense et de sécurité. Il faut quand même nous reconnaître le droit d'associer quand même les populations dans cette lutte, puisque vous savez que ce terrorisme est pernicieux. C'est dans la population aussi que se fondent ceux qui attaquent la journée ou la nuit, et ensuite se transforment donc en civils non identifiables comme combattants. Il faut l'accepter, les pertes sont énormes, sont difficiles à supporter pour notre peuple, les civils, les militaires, y compris ses auxiliaires. Nous sommes résilients,
nous devons faire en sorte de gagner cette guerre. Et il n'y a pas de guerre sans perte, madame.
Monsieur le ministre Tamboura, question avec, cette coopération sécuritaire Abidjan-Bamako-Ouaga. Le ministre ivoirien de la Défense était à Ouagadougou cette semaine pour parler de renforcement de la collaboration. Comment va-t-elle se traduire dans les prochains jours et qu'est-ce qui va changer dans la stratégie ou la réponse sécuritaire à venir?
Moi, je pense qu'elle se renforce. Déjà, la Côte d'Ivoire ne faisait pas partie du groupe G5 qui avait été donc mis en place pour aider à combattre le terrorisme dans les pays du Mali, du Niger et donc du Burkina Faso avec la Mauritanie. Donc, ça, c'est un renfort supplémentaire parce que la Côte d'Ivoire, si vous avez observé ces derniers temps, en tout cas subit quelques incursions aussi dans son territoire. Donc je pense que c'est un renfort qui va peut-être donner aussi encore une plus grande plateforme, j'allais dire de coopération, déjà en termes de renseignement, mais certainement aussi en termes de capacité opérationnelle.
Merci, Monsieur le ministre Tamboura.
Liliane, on va écouter peut-être notre confrère du Mali, Salif, dont le pays n'est pas épargné par ces attaques terroristes. Salif, je parlais peut-être de cette coopération, si vous voulez bien réagir dessus. Le ministre ivoirien était également à Bamako. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une coopération plus forte avec ces deux pays, même si le Niger n'en fait pas partie pour l'instant, et que ça va changer la donne sur le terrain, peut-être dans un délai court?
Oui, déjà, on peut espérer que la coopération va améliorer un peu la situation sur le terrain, mais pas à court terme, parce que déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs protocoles, formalités à remplir et à faire. Donc déjà, c'est une bonne chose, la volonté qui est là de d'œuvrer ensemble pour la paix. Mais ce qu'il faut, c'est aussi d'impliquer les autres pays qui sont aussi les pays voisins, donc qui sont impliqués.
Je parlais du Niger aussi.
Oui, du Niger et d'autres pays encore. Hein. Donc ça, ce sera vraiment intéressant. Mais bon, pour l'instant, on ne peut qu'espérer, quoi.
Mokhtar ?
Oui, d'abord, je voudrais dire que c'est à la décharge de ce que disait Monsieur le ministre Tamboura. C'est facile pour personne. Le problème du terrorisme est un problème extrêmement difficile. Et comme ils ont intitulé l'opération Dignité, je dirais qu'il faut donner la dignité aux populations locales. Le problème vient d'un délaissement de populations pendant des décennies. Les populations ont été abandonnées, les populations n'ont pas eu ce qu'il fallait et donc ont tendu tout simplement la main, mais aussi l'oreille à des gens qui sont venus, bien entendu, avec de très très mauvais projets pour eux. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. La population s'est retrouvée par la responsabilité d'un échec de gestion de la part de nos gouvernements, et ce n'est pas propre au Burkina Faso, c'est la même chose au Mali, c'est la même chose en Mauritanie, c'est la même chose au Niger, et vous l'avez vu encore récemment au Tchad. Donc il faut que nos gouvernants gouvernent comme il le faut au service des populations pour qu'ils les tirent de ce dans lesquels ils sont plongés aujourd'hui.
Mais Mokhtar, le ministre l'a souligné, c'est une guerre qui se mène sur plusieurs fronts et dans plusieurs pays. Et Liliane en a parlé, cette coopération qui pourrait naître entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, est-ce que ça pourrait changer les choses dans cette lutte?
Parce que jusque-là, on parlait de coopération, mais elle ne semblait pas vraiment être intense.
Il y a le groupe du G5 et vous avez vu évidemment quels étaient les maigres progrès quand cinq pays, soi-disant les plus en prise avec le problème du terrorisme, se sont alliés pour combattre ce mal. Il est extrêmement difficile, encore une fois, quand des terroristes sont avec la population, qui les corrompent quelque part avec des trafics en tout genre. Et d'un côté, vous avez l'absence d'autorité publique. Le mal, il est là. tant qu'on ne s'est pas attaqué au problème de sous-développement, au problème de l'éducation, vous aurez toujours des problèmes sous-jacents de demandes. On se confie à qui va vous donner de quoi subsister.
Merci beaucoup.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Notre invité cette semaine est Dr Ousseni Tamboura, ministre burkinabé de la communication et porte-parole du gouvernement. Deux journalistes sont avec nous, Salif Diarra, cofondateur et directeur de publication du site d'information maliactu.net à Bamako, au Mali, et à Washington, aux États-Unis, Mokhtar Gawad, journaliste mauritanien, promoteur du site d'information vuesurlamérique.com. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com. Saint-Ish, on va rester encore quelques petites minutes sur le Burkina Faso avec notre invité.
Avec notre invité, le ministre Tamboura. Et je voudrais, monsieur le ministre, rebondir sur ce que notre confrère Mokhtar disait juste avant la pause. Oui. La lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Il y a également un problème de développement, de prise en compte des préoccupations des populations. Dans ce domaine, sur ce front, que fait le gouvernement burkinabé?
Ah oui, moi je partage vraiment l'avis de Mokhtar. En fait, il faut continuer à investir dans le développement économique et le capital humain, sinon accélérer d'ailleurs ces investissements avec une dimension d'équité d'ailleurs pour toute la jeunesse, parce que c'est évident que si on n'investit pas dans le capital humain, dans le développement économique, et les discours qui séduisent donc les jeunes à s'enrôler dans cette aventure prennent beaucoup plus facilement. Je pense qu'il y a aussi d'autres raisons. Il ne faut pas considérer que c'est l'absence de développement qui entraîne aussi ipso facto le terrorisme. Il faut déconstruire aussi les discours. Et là, il faut qu'on regarde un peu la responsabilité de la société. Comment on déconstruit les discours qui séduisent les jeunes? Et puis, il y a aussi d'autres questions beaucoup plus stratégiques. La facilité avec laquelle les armes et les munitions circulent. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait autant d'armes qui circulent sur le continent? Et ça, c'est un problème aussi qu'il faut regarder. Donc je pense qu'il faut faire un mélange de solutions. Il faut rester focus sur l'opérationnel en capacitant nos forces de défense, en améliorant la coopération entre les pays qui sont touchés par cette menace, en faisant en sorte qu'elle soit plus efficace. Il faut en même temps continuer à développer, les parties du pays où facilement on peut utiliser l'absence de l'État ou du développement pour considérer que ceci peut justifier cela. Il suffit de regarder les régions touchées par l'insécurité dans notre pays, par exemple. Il y en a 4 ou 5. C'est là où vous avez les taux d'éducation les plus faibles, c'est là où vous avez des indicateurs sociaux les plus faibles. Donc, de mon point de vue, le diagnostic est connu. Donc, il nous faut continuer à investir. Mais comment investir dans une région ou dans un territoire en proie à la sécurité, quand vous savez très bien aussi que les conditions de réalisation des investissements dépendent aussi des conditions de sécurité. Et là, on se retrouve dans une situation difficile, mais nous faisons en sorte de maintenir ces efforts d'investissement dans quelques territoires qui sont concernés.
Monsieur Misse Tamboura, lorsqu'on entend le leader de l'opposition, Edi Komboigo, dire que le gouvernement d'Abiré est responsable de tout ce qui arrive au Burkina Faso, et il insiste aussi en déclarant qu'il faut non seulement bander les muscles, ce sont ses mots, mais également privilégier le dialogue intelligent par la diplomatie. Vous comprenez quoi de ces propos?
Bon, déjà, je constate qu'il a abandonné le vocable négociation pour parler de dialogue intelligent. Je pense que c'est déjà un pas vers une explicitation de son esprit.
C'est une négociation avec des groupes djihadistes?
Non, c'était les mots privilégiés par le chef de l'opposition. Mais je constate aujourd'hui que, bon, on parle de dialogue intelligent, ce qui est déjà un pas positif. On négocie sur quoi? On négocie sur quoi? On négocie avec qui? Et de toutes les façons, vous savez que pour négocier, il faut établir un rapport de force. D'où je suis d'accord avec lui qu'il faut bander les muscles. Pour négocier, il faut établir un rapport de force. Et puis ensuite, on regarde quels sont ceux qui peuvent être rapportés, quels sont ceux qui peuvent abandonner cette aventure terroriste et réintégrer donc les rangs de la nation. C'est une option qui n'est pas ignorée, en tout cas par les pouvoirs publics.
Et dans ce cadre-là, monsieur le ministre, et parlons de négociations au Mali, vous avez sans doute connaissance de cet accord temporaire dit de Niono entre Dozo et djihadistes parrainé par une association religieuse. Que pensez-vous de cette approche malienne et comptez-vous vous en inspirer?
J'attends de voir son efficacité, hein, parce qu'au Mali, depuis 2011-2012, ce n'est pas les accords qui ont manqué. Hein, donc, j'attends de voir l'efficacité de cette démarche.
Alors, Liliane, nous allons peut-être aborder, mais rapidement, cet autre point de l'actualité au Burkina et en Côte d'Ivoire, avec cette rencontre entre le ministre de la Réconciliation nationale, Zéphiré Diabré, et l'ancien président Blaise Compaoré. C'est quand même la première fois qu'une autorité burkinabé rencontre l'ex-président Blaise Compaoré. Monsieur le ministre, est-ce que cette rencontre signifie que le gouvernement burkinabé affiche clairement sa volonté de voir le président Compaoré rentrer au pays ?
Oui, c'est un signe tangible de détente. Déjà, la création de ce ministère auprès du président de la République, président du Faso, sonne en tout cas le tocsin qu'il s'agit de faire en sorte que les Burkinabés se réconcilient, que ce soit sous les dimensions politiques ou autres. Alors, cette visite du ministre d'État Zéphirin Diabré à Abidjan, et à laquelle occasion il a pu rencontrer le Monsieur Blaise Compaoré, donc ancien président du Burkina Faso, de mon point de vue, donne en tout cas le ton que les Burkinabés veulent avancer et se réconcilier. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas sur l'autel de la justice, par exemple, ce qui me paraît être aussi une dimension à préciser.
Donc vous êtes d'accord avec le collectif des avocats de Sankara qui dit espérer que, de même que la famille du défunt président Sankara, que le ministre Diabré a peut-être convaincu le président Compaoré, l'ancien président Compaoré, de venir répondre des charges pour lesquelles il est poursuivi et de donner sa version?
Là, je ne saurais vous le dire. Je sais simplement qu'en tant que porte-parole du gouvernement, lorsque nous avions adopté la feuille de route du processus de réconciliation nationale dans notre pays, rendant compte cela donc à la presse, nous avons précisé que le triptyque vérité, justice et réconciliation semblait être le meilleur chemin pour aller vers la réconciliation. Donc il n'y avait pas lieu de
considérer que la réconciliation était une négation. Si le président, l'ancien président burkinabé, l'ancien président Compaoré rentre au Burkina Faso dans le cadre de la réconciliation, sera-t-il jugé ou sera-t-il libre?
Mais de toute façon, il est accusé dans le procès donc pour l'assassinat de Thomas Sankara. Je considère donc qu'il faut nécessairement passer par la case justice.
Merci beaucoup. Saint-Tiche, on va peut-être passer au prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Notre grand témoin cette semaine est Dr Ousseni Tamboura, ministre burkinabé de la communication et porte-parole du gouvernement. Nous sommes accompagnés de deux confrères, Mokhtar Gawad, journaliste mauritanien et promoteur du site vuesuramérique.com. Il est à Washington et à Bamako. Salif Diarra, cofondateur et directeur de publication du site d'information Mali, actu.net. Votre émission est à retrouver sur bbcafrique.com et africaradio.com. Et n'hésitez pas à partager vos avis avec nous sur la page Facebook, l'adresse facebook.com/débat BBC Africa Radio. Deuxième sujet, la Mauritanie. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz dénonce un acharnement politique orchestré, dit-il, par son successeur El Ghazouani. L'une des résidences de l'ex-dirigeant a été fouillée par des enquêteurs à la recherche de lingots d'or présumés acquis avec l'argent public. Selon ses avocats, la résidence a été partiellement démolie sur décision, disent-ils, des juges d'instruction qui enquêtent sur cette affaire. Depuis quelques mois, l'ex-chef de l'État mauritanien est régulièrement convoqué pour être entendu sur des soupçons de corruption, de détournement des biens publics et de blanchiment d'argent, accusations sur lesquelles il refuse de répondre. À chaque fois, il est resté muet face aux enquêteurs. Mokhtar, C'est mardi dernier que l'ex-président a répondu à une nouvelle convocation des juges du pôle anticorruption. Et c'est dans ce cadre que les enquêteurs ont donc décidé une commission rogatoire en vue de chercher la présence présumée, je le disais, d'or dans l'une de ses résidences à Nouakchott. Y a-t-il une histoire d'ailleurs derrière ce supposé lingot d'or, Mokhtar, pour que cela intéresse autant la justice mauritanienne?
Alors, dans ses déclarations, l'ancien président Aziz a été on ne peut plus clair. Il a dit, je cite, « Je n'ai jamais nié que j'ai de l'argent », qui veut bien, parce que c'est une évidence que quand on vous dit cela, c'est que on ne parle pas de son salaire d'ancien militaire ou d'ancien président, mais il s'agit bien de plusieurs millions de dollars qui ont été détournés des caisses publiques mauritaniennes.
Pardon, Mokhtar, sauf erreur de ma part, les enquêteurs n'ont pas dit avoir découvert une certaine somme chez lui. Au contraire, ils ont fait chou blanc. Sauf si c'est moi qui n'ai pas l'information, est-ce qu'on a découvert tout ce pactole dont vous parlez dans sa résidence à la place de lingots d'or recherchés?
Pensez-vous que ceux qui ont été corrompus ou les corrupteurs dorment avec des liasses ou des lingots d'or?
Je n'ai pas d'avis, je ne pense rien, je m'en tiens au fait, Mokhtar.
Alors, surtout que l'affaire
est en cours, voilà. Oui, donc je m'en tiens à ce que les enquêteurs ont déclaré à la fin. Il n'y a pas eu de lingots d'or, on n'a pas parlé d'argent.
Il y a une instruction, il y a une enquête parlementaire. Je vous renvoie aux conclusions et évidemment le pôle financier de Nouakchott qui est en train de mener l'enquête. Ne nous cachons pas derrière nos petits doigts, mesdames et messieurs de l'émission, parce que on sait évidemment aujourd'hui qu'en Afrique, la corruption est un problème majeur. Aziz, l'ancien président Ould Abdelaziz, est accusé par les autorités mauritaniennes aujourd'hui d'avoir détourné des sommes avec un clan qu'il avait mis en place. Et les enquêtes sont en cours. Évidemment, derrière tout cela, il y a un règlement de compte. Évidemment que l'actuel pouvoir, je ne l'exclus absolument pas, est en train de perpétrer exactement les mêmes choses que les prédécesseurs. Donc, je dis que c'est un problème structurel pour nos pays. Je ne dis pas qu'il est personnel et qu'il est unique pour le président Aziz. Il est un problème structurel. Et alors, il ne faut absolument pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. Et on se comprend et on sait parfaitement ce qu'il en est aujourd'hui de la corruption en Afrique.
Il y a ce qu'on peut dire, qu'on sait, mais il y a aussi ce que la justice établit en fin de compte. Et moi, je voudrais demander, est-ce qu'aujourd'hui, quel aurait l'impact d'un procès d'un ancien président en Mauritanie, en l'occurrence le président Mohamed Abdelaziz, qui ne répond pas aux enquêteurs, mais qui dit qu'il n'est pas contre un procès? Quel impact aurait un tel procès dans le pays, Mokhtar?
Ce sera théâtral. Ce qui va se passer, il va y avoir un arrangement au préalable entre les autorités actuelles et l'ancien président Aziz. Il y aura évidemment instruction au procureur ainsi qu'au juge pour qu'il y ait un arrangement.
Mais ce qu'on observe actuellement ne va pas dans le sens de ce scénario. Il semble plutôt que d'un côté comme de l'autre, il n'y ait pas de conciliation entre les deux parties.
C'est ce qu'on veut bien nous faire croire. Aujourd'hui, il y a un semblant, si vous voulez, d'opposition politique. Aziz dit qu'il est victime d'un acharnement pour qu'il ne puisse pas exercer comme homme politique. Mais bien évidemment, derrière tout cela, nous avons des règlements de compte entre des amis de 40 ans. Un qui ne veut pas lâcher le pouvoir, Aziz, parce qu'il avait quitté il y a un an et demi, et son successeur qui veut s'en affranchir.
Son successeur qu'il avait adoubé et soutenu.
Absolument. Donc derrière tout cela, il y a une lutte acharnée pour qui veut bien mettre la main sur les deniers publics. Moi, je dis ça avec force parce qu'aujourd'hui, il faut dénoncer. Encore une fois, ce n'est pas propre à la Mauritanie, ce n'est pas propre au Burkina, mais tant que nous nous cachons derrière notre petit doigt et nous disons qu'il n'y a pas un problème de corruption qui effectivement amène nos populations à ce qu'elles vivent aujourd'hui. Au Burkina, on vient de parler du terrorisme. Au Mali, on peut parler aussi de terrorisme. Il faut absolument que la population sache que, mauritanienne, j'entends bien, sache que ce qui se passe est un règlement de compte entre deux parties, si je ne peux pas dire deux clans, qui veulent tout simplement mettre la main sur la manne du pays.
Merci. Saint-Tiche, avec notre confrère, peut-être ensuite notre invité.
Oui, Salif.
Salif.
Oui.
Oui, les enquêteurs, je disais tout à l'heure, n'ont rien trouvé. Est-ce que cela ne renforce pas les accusations de harcèlement que dénonce l'ex-président et qui se dit aussi victime de cabale politique?
Oui, vu le déroulé de la situation, on sent qu'il y a de l'acharnement contre l'ex-président parce que tout simplement... il n'est pas du clan de ce qui dirige aujourd'hui. Donc, il a aussi eu à dénoncer la composition de la commission d'enquête parlementaire. Parce que pour lui, ils ne sont pas en mesure de faire le travail honnêtement. Et de
façon il a même accusé les députés d'avoir reçu 300 millions d'Ougia, environ 700 000 euros pour voter la création d'une commission d'enquête. Et en retour, les députés ont porté plainte pour diffamation.
Oui, effectivement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi prendre en compte son avis. C'est, la justice est là, il faut qu'il y ait justice, mais il faut que la justice soit libre, transparente. Quoi. Ça, c'est vraiment important, vu les accusations portées par l'ex-président de la République. Peut-être qu'il n'est pas aussi clair que ça, mais il a droit quand même à une justice transparente.
Merci.
Merci Salif. Nous allons écouter notre invité, notre grand témoin. Monsieur le ministre Tamboura.
Oui. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt nos invités. Ben, je suis très loin de la réalité, au propre comme au figuré, de ce qui se passe à Nouakchott. Je ne connais pas très bien aussi les réalités politico-juridique de ce pays que je me risquerais très peu à un commentaire, à une opinion. Je suis engagé en général pour un État toujours soumis donc aux règles de droit, dans le principe. Mais je n'ai pas assez de connaissances de ce qui se passe là-bas pour vous donner une opinion toute faite ou toute tranchée.
Alors, peut-être élargir le sujet au plan africain. Ah oui. Un ancien président de la République qui a, comme Liliane l'a dit, adoubé son successeur qui aujourd'hui est aux commandes et on assiste à ce scénario où l'ancien président parle d'harcèlement. Ça peut être un scénario qu'on verrait dans d'autres pays africains. Est-ce que cela n'est pas un argument qui pourrait emmener certains à vouloir s'accrocher au pouvoir?
Ben, si on a envie de s'accrocher au pouvoir, ça peut être un argument qui peut être appelé. Bon, je pense qu'il faut l'essor des anciens chefs d'État, que ce soit en Afrique ou sous d'autres cieux. Hein. On le voit en France aussi, des personnes ont exercé ce mandat et se retrouvent devant la justice. Moi, je pense que si on fait le serment que l'État de droit, c'est la soumission des hommes, quel que soit leur statut, aux règles de droit, en principe... on devrait pouvoir, effectivement, si on est passible d'une infraction presque établie, et de s'y soumettre, quel que soit donc le statut qu'on a occupé auparavant. Le tout, naturellement, sous réserve aussi de certaines immunités s'il y en a. Maintenant, en Afrique, sur notre continent, puisqu'on peut faire l'option aussi de promouvoir que les chefs d'État ne restent pas au-delà des mandats prescrits par la Constitution, effectivement, on peut engager la réflexion de faire en sorte qu'il n'ait pas de raison de rester davantage.
Merci, Monsieur le ministre.
Mokhtar, je parlais tout à l'heure de ces accusations de l'ancien président qui affirmait que les députés auraient perçu de l'argent pour mettre en place cette commission d'enquête parlementaire. Et on a écouté ses déclarations, il parlait de cabale politique. Jusqu'où ira cette escalade, sachant que les deux hommes sont issus de l'armée?
L'escalade irait jusqu'à une entente entre les deux hommes, et je ne l'exclus absolument pas. Je pense qu'ils vont...
Vous voyez l'entente, il n'y a pas de risque que les militaires s'en mêlent, puisque je disais que les deux sont... issus de l'armée.
Les anciens militaires, ils ont tout simplement changé de costume pour qu'ils puissent se présenter aux élections. Mais moi, j'appellerais la pièce de théâtre « Petits arrangements entre amis ». Ils vont s'asseoir autour d'une table et ils vont voir ce qui est dans l'intérêt des deux hommes. Et bien entendu... je n'exclus pas qu'il y ait même plus tard entre les deux parties qu'ils représentent une entente pour les prochaines échéances. Et tout cela, il va y avoir des négociations, j'en suis persuadé. Il n'irait pas jusqu'à un procès. Et s'il y a un procès, ce serait juste pour la forme, tant il y a des intérêts pour les deux à préserver.
D'accord. Donc, on comprend, vous dites que l'armée ne s'en mêlera pas non plus.
Je ne pense pas parce que aujourd'hui, les deux hommes, qui sont des ex-militaires encore une fois, maintiennent leur mainmise sur l'armée. Et je ne vois pas du tout les officiers aujourd'hui qui doivent toute leur carrière à Aziz et à l'actuel président Ould Razouani s'en mêler. Il va y avoir, à mon avis, un arrangement entre les deux hommes qui se connaissent depuis 40 ans.
Ce que l'ancien président a d'ailleurs admis. Saint-Tiche ?
Il a admis.
Oui, Saint-Tiche ?
Nous prenons le dernier sujet.
Le Mali, avec vous.
Alors, au Mali, le premier gouvernement de transition a rendu sa démission ce vendredi, a démissionné ce vendredi. Le premier ministre Mokhtar Ouane a aussitôt été reconduit avec la mission de former un nouveau gouvernement qualifié qu'on voudrait de large ouverture. Le précédent a subi quelques critiques de la part des syndicats et aussi du mouvement M5, ce mouvement qui avait conduit la contestation contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. La semaine dernière, le président de la transition Badao a reçu la classe politique, les forces vives de la nation, ainsi que les leaders religieux pour les écouter. Et puis, il y a eu également cette mission de la CDAO dans le pays qui a recommandé aux autorités malienne de définir des priorités pour tenir dans les délais du calendrier électoral qui a été dévoilé. Première question à notre confrère Salif Diarra, cofondateur et directeur de publication du site d'information maliactu.net. Qu'est-ce qui a le plus pesé, selon vous, contre le gouvernement qui vient donc de démissionner? Est-ce que ce sont les critiques au plan national ou plutôt ce rapport de suivi de la CDAO, Salif?
Bon, je dirais plutôt c'est le rapport de suivi de la CDAO et surtout les contestations qui ont lieu ici au Mali. Donc ça a beaucoup pesé parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UNTM, qui est la plus grande centrale syndicale au Mali, prévoit d'aller en grève à partir de lundi pour une semaine. Et que les syndicats de la police prévoient aussi d'aller en grève, les syndicats des gardiens de prison prévoient d'aller en grève, les syndicats des DSM, des DRH prévoient aussi d'aller en grève. Il y a le M5-RSP qui prépare aussi un calendrier pour contester ce qui se passe. Et il y a le découpage administratif qui a eu lieu, qui n'a pas du tout respecté... le travail qui a été fait en 2018, où il y a des contestations qui sont toujours en cours au Mali. Et ça a beaucoup poussé le président de la République à prendre ses responsabilités.
Donc plus, beaucoup de sujets de division et de polémique actuellement, mais n'empêche que le calendrier électoral a été dévoilé. On est à 8 mois normalement de la présidentielle et des législatives qui devraient permettre de rendre le pouvoir aux civils. Et puis à 5 mois seulement de ce référendum constitutionnel, un changement de gouvernement avec ces délais, quel impact selon vous?
Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que grand-chose n'avait pas été fait avant aujourd'hui, parce que les Maliens, surtout le M5-RFP, voyaient en fait la volonté du gouvernement sortant de ne pas respecter les délais suite à plusieurs raisons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que grand-chose n'a pas évolué. Donc, c'est avec ce gouvernement qui sera dit de large ouverture qui va rassembler en fait les Maliens et qui va mettre en place les bases pour qu'il y ait une élection libre et transparente, parce que on parle d'élection déjà dans 8 mois, et ce qu'il faut comprendre, que le fichier électoral doit être révisé. La société civile
et parlement justement de ce fichier électoral, est-ce que le nouveau gouvernement qui sera mis en place, le temps qu'il s'imprègne des dossiers, est-ce que cela ne va pas retarder justement l'exécution de ces urgences qu'il fallait vider avant la tenue de l'élection qui est censée marquer justement la fin de la transition?
Bien sûr, maintenant c'est qui faisable, c'est peut-être de prolonger la durée de la transition, parce que il y a trop de choses à faire avant. Il y a la révision constitutionnelle qui doit être faite, il y a plein de choses qui doivent être faites avant de pouvoir faire une élection. Donc nous sommes forcément dans l'optique de prolonger le délai de la transition.
Est-ce que la classe politique malienne serait d'accord?
La classe politique malienne serait d'accord. Bonjour, à condition qu'elle soit impliquée dans le processus, en fait, qu'elle soit représentée déjà au sein du gouvernement, au sein du CNT, et que le travail, et qu'ils fassent ensemble le travail. Donc la classe politique va forcément être d'accord.
Merci Salif.
Mais dans le cas contraire, il y aura toujours des contestations. Et à la fin, il y aura un blocage, quoi.
Merci Salif, justement. Nous allons prendre l'avis de Mokhtar. Est-ce qu'on est en train de s'acheminer, comme Salif l'a dit, hein, vers le prolongement de la transition au Mali?
Moi, ce qui me frappe au Mali, c'est que c'est la force toujours historique de la société civile, des mouvements issus de la société civile, des syndicats, comme vient de le dire notre confrère, veillent au grain. Et je vous rappelle tout simplement que le coup d'État contre Ibeka a été initié d'abord par un collectif civil et qui a amené les militaires à
le prendre M5 RFP. Le train
en marche. Donc, exactement. Et donc, je pense que ce mouvement de contestation, qui est quand même connu pour son intransigeance, va veiller à ce que les choses soient respectées. Et on espère que, comme l'ont décrit et dit les autorités, que le calendrier électoral, le référendum constitutionnel, puis plus tard les élections présidentielles et parlementaires pour le début de 2022, soit respecté. Et moi, je suis optimiste pour cette transition malgré tout.
Et ce M5-RFP demandait justement la démission du gouvernement. Saint-Tite le disait, il a obtenu. Et il parlait aussi d'une rectification de la transition. D'ailleurs, il avait introduit devant la Cour suprême une procédure pour réclamer la destitution de ce gouvernement, même du Conseil national de transition. Mais est-ce qu'en fin de compte, la classe politique ne sera-t-elle pas responsable d'un éventuel prolongement de la transition?
Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il va y avoir une pression. Comme je l'ai dit, le M5, mouvement de contestation toujours. Donc non, Liliane, très sincèrement, je pense qu'il veille au grain et que la transition même s'ils ont exigé évidemment la démission du gouvernement, le plus important ce sont les échéances qui sont déjà fixées et le calendrier déjà adopté, et je pense qu'on irait vers cette transition.
Monsieur le ministre, votre avis sur ce gouvernement démissionne dans un contexte où on l'a décrit, hein, Saint-Tich le disait en introduction, le climat social est explosif, celui politique instable. Est-ce que vous pensez que la démission du nouveau gouvernement va peut-être apaiser un peu les esprits?
Bon, nous espérons que, effectivement, si c'est un gouvernement d'ouverture qui permet donc de faire en sorte que ceux qui ont des opinions différentes sur la conduite de la transition donc puissent rallier le train, c'est peut-être à mieux. Moi, je pense qu'on peut partager l'expérience du Burkina Faso. Hein. Il n'y a pas de transition politique calme. Hein. On se souviendra, on a fait 2 ou 3 remaniements avant d'aller aux élections au Burkina Faso. On a même pratiquement subi un coup d'État avant. Le plus important, c'est que lorsqu'une transition réussit, c'est que ça nous donne des meilleures chances pour de véritables institutions démocratiques. Donc moi, mon appel au peuple malien, au gouvernement malien, à tous ceux qui sont dépositaires de forces sociales et politiques, c'est de faire en sorte qu'effectivement, ce pays puisse se doter donc des institutions démocratiques aux dates annoncées. Sinon, de report en report, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, l'expérience du Burkina est illustrative et je pense que ça pourrait servir. On leur demande de tenir bon, d'écouter tout le monde, mais de faire en sorte que les engagements pris quant aux élections puissent être respectés.
On va à présent écouter les réactions de nos auditeurs recueillis sur la page Facebook par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tich, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina, Jean Zounon estime que la solution à l'insécurité passe par la bonne gouvernance et le règlement du problème de chômage des jeunes. Innocent Mokotio lui estime que le véritable problème du Burkina et des autres pays africains, c'est le chômage des jeunes et la corruption des gouvernants. Mauritanie, Onésime Ofanik s'interroge sur ce qui adviendra au sein de l'appareil gouvernemental si les enquêtes révèle que les proches de l'actuel président sont impliqués dans les affaires pour lesquelles l'ancien président est poursuivi. Mali, Achédu Théodore de N'Djamena estime que la pression sur les autorités de la transition du Mali n'est que le résultat de leur inefficacité dans le temps, surtout au niveau sécuritaire. Je vous souhaite un très bon week-end.
Et très bon week-end à vous également, Didier Ladislas Lando. Monsieur le ministre, en 30 secondes, une conclusion, peut-être en répondant à la question de l'auditeur. La solution à l'insécurité passe par le règlement du chômage et la fin de la corruption des gouvernements.
Absolument. De toutes les façons, les liens entre la bonne gouvernance, la création d'emplois des jeunes nous donnent de meilleures réponses, mais il faut aussi faire face aux défis du court terme qui sont là. Le fait qu'on est attaqué, il faut donc se défendre. On ne peut pas donc occulter aussi cette réponse de terrain. Voilà, donc c'est un message tout à fait qu'on peut prendre en compte et je pense que le gouvernement burkinabé donc s'y attelle.
Et c'était notre grand témoin de cette semaine, Dr Ousseni Tamboura, ministre burkinabé de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso à Ouagadougou. Merci à nos confrères Morta Gawa, des journalistes mauritaniens et promoteurs du site d'information vu sur l'Amérique.com à Washington, aux États-Unis. Merci à notre confrère du Mali, Salif Diarra, merci beaucoup, promoteur du site maliactu.net. Vous pouvez réécouter cette émission sur africaradio.com et bbcafrique.com et nous faire part de vos avis sur la page Facebook, facebook.com/debatbbcafricaradio. Réalisation de cette émission à Dakar, Abdou Diop à Paris, Hugo Vallière. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et j'aurai le plaisir de vous retrouver, Saint-Tich Mantar Tomté.
Ce sera avec le même plaisir, Liliane.
Au revoir.